France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
L'homéopathie, une exception française, la Haute Autorité de Santé s'est prononcée vendredi pour le déremboursement de l'homéopathie, au motif que les médicaments homéopathiques n'ont pas démontré scientifiquement une efficacité suffisante pour justifier d'un remboursement. Alors, les pour, les contre, depuis quelques mois déjà, la bataille se joue par pétitions et tribunes interposées. Vent debout aussi contre cette possible décision, le français Boiron, leader mondial du secteur, l'avis est maintenant connu, mais l'arbitrage politique est encore loin d'être rendu. L'économie pour la Sécu est évaluée à 126 millions d'euros. On en parle aujourd'hui avec deux grands voix de la médecine. Alain Fischer, tout d'abord médecin spécialiste d'immunologie, chercheur à l'INSERM et professeur au Collège de France, signataire de la tribune « Il faut dérembourser » paru dans l'Express en décembre dernier, aux côtés de 130 membres des académies des sciences, de médecine et de pharmacie. Bonjour Alain Fischer.
Bonjour.
Et le diabétologue André Grimaldi, professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière, auteur d'une tribune quant à lui dans Le Monde, à l'automne dernier, signée de votre nom, seul où vous vous prononciez contre l'interdiction, mais pour le déremboursement. Bonjour André Grimaldi.
Bonjour.
Saisie il y a un an, la Haute Autorité de Santé a mené une vaste consultation pour évaluer scientifiquement les effets de ces médicaments homéopathiques. Près de 1200 médicaments testés, plus de 1000 publications scientifiques analysées et les trois laboratoires concernés, le français Boiron, le suisse Velleda et l'allemand Lenning ont aussi eu voix au chapitre, paraît-il. Cet avis qu'elle vient de rendre, la Haute Autorité de Santé, André Grimaldi, ne vous surprend pas?
Non, c'est-à-dire que l'homéopathie, c'est quand même des médicaments dont la théorie remonte à 2 siècles hein, et qui n'ont pas changé. Alors, toutes les études, finalement, concluent il n'y a pas de différence d'efficacité entre les médicaments dits homéopathiques et un placebo. Or, on considère qu'on rembourse un médicament s'il montre une efficacité supérieure à un placebo. Donc toutes les études qui ont été faites, menées correctement, comparant une homéopathie à un placebo, ont conclu à il n'y a pas d'efficacité supérieure. Donc il n'y a pas de raison de le rembourser. Alors, après, autre chose, et il y a des gens qui en tirent un bénéfice, qui disent, ben, moi je prends peut-être un placebo et ça me fait du bien. Bon, bah très bien, mais est-ce que la collectivité doit le rembourser? Est-ce que ça relève de la solidarité? D'autant que, comme chacun le sait, les moyens ne sont pas illimités et il y a des médicaments utiles, efficaces, qui ne sont pas remboursés à ce jour. Donc c'est un choix. Bon, c'est un choix dans lequel je pense que les médecins qui se passent sur une base scientifique diront non, ce médicament ne doit pas être remboursé, mais il n'a pas à être interdit. L'irrationnel, y compris bon,
vous, c'est avant
chez l'homme, et on doit le respecter.
C'est avant tout la question de la solidarité nationale que vous posez, hein,
à travers il y a deux questions. Il y a
le remboursement ou son déremboursement.
Les théories homéopathiques, est-ce que c'est de la charlatanerie? Au jour d'aujourd'hui, on dirait oui. Hein, c'est-à-dire l'idée que des grandes dilutions font qu'il y a une mémoire de l'eau qui a une efficacité, bon bah ça relève de théories fantasmatiques, mais enfin après tout il y a plein de choses comme ça dans l'espèce humaine, il n'y a pas raison de les interdire. Par contre, un médecin doit dire raisonnablement, est-ce que ça a une efficacité démontrée? Ben non, ça n'a pas d'efficacité démontrée. Alors si vous voulez croire aux grandes dilutions, à la mémoire de l'eau, c'est une croyance. Hein, voilà, mais ça relève pas de la science.
C'est pourtant, Alain Fischer, une médecine qui a trouvé son public, si on parle simplement du leader mondial, le laboratoire Boiron, qui fait 60% de son chiffre d'affaires sur le marché français. On peut aussi évaluer les enquêtes d'opinion au sujet de l'homéopathie, qui montrent que beaucoup d'usagers y sont très favorables et la jugent utile pour les soigner. Pourquoi cette médecine est toujours considérée comme une pseudo-médecine? Pourquoi dire aujourd'hui que tous ceux qui consomment de l'homéopathie sont tombés dans une sorte d'attrape-nigaud?
Bon, il faut rappeler que ce que vient d'être très bien dit par André Grimaldi, c'est qu'il n'y a pas, en 2019, de base scientifique solide, ni même de base scientifique du tout, à l'homéopathie. Le fondement de cette homéopathie date d'il y a plus de 200 ans, à un moment où on ne connaissait pas la structure de la matière. Et donc cela n'a plus aucun sens, et les très nombreuses études que vous avez rappelées indiquent qu'il n'y a absolument aucune efficacité au-delà d'un effet placebo des médicaments, je ne devrais pas utiliser le mot médicament, des produits homéopathiques qui ne sont pas des médicaments au sens où on l'entend ayant démontré une efficacité. Mais vous avez raison, il y a une certaine une fraction de la population, et d'ailleurs aussi de certains médecins par définition qui prescrivent ces produits, une forme de croyance en bénéfice de l'homéopathie. Et là, je pense que cela fait nous renvoie à une question importante de la pratique de la médecine, qui est que la médecine, fondamentalement, dans l'état des connaissances actuelles, a deux piliers. Un pilier qui est la science. On ne peut pas imaginer une seconde aujourd'hui de ne pas fonder la pratique médicale sur les bases les plus solides des découvertes scientifiques, même s'ils sont loin d'avoir résolu toutes les questions médicales, bien sûr. Et le second pilier, et c'est le point important ici, c'est le fait que la médecine implique une écoute, un dialogue et une écoute avec empathie et le temps nécessaire pour qu'un médecin entende les plaintes des patients. Et malheureusement en France, et en partie sous l'effet quand même d'une communication assez efficace, on est arrivé à une situation où une espèce de trajectoire obligatoire, plainte, signifie prescription de médicaments, que ce soit médicaments classiques ou que ce soit des produits de l'homéopathie. Je pense que cette façon de procéder entraîne une surconsommation médicale de médicaments, qui en soi peut être dangereuse en raison des effets indésirables de beaucoup de médicaments, efficaces par ailleurs, mais qui aussi effets indésirables par possible, et induit aussi ce réflexe face à une plainte fonctionnelle tout à fait respectable et qui doit être prise en compte d'un malade, à une prescription, donc pourquoi pas de produits homéopathiques. Donc cette pratique-là, et peut-être c'est l'occasion de la remise en cause du remboursement de l'homéopathie, c'est le moment d'essayer de modifier, ça ne sera pas en un jour, la vision, la perception à la fois par une partie du monde médical et par les patients que nous sommes tous, par les citoyens, du fait que plainte n'implique pas, plainte de fonctionnel de tous ordres, n'implique pas un traitement, une ordonnance, mais peut impliquer, surtout doit impliquer, une discussion, une écoute attentive des plaintes et une réponse aux questions et des conseils. Beaucoup, je pense, de l'effet placebo pourrait être obtenu par ce dialogue humain, raisonnable entre le patient et son médecin.
D'un côté, c'est vrai qu'il y a la standardisation presque de la prescription à tel mal correspond tel remède. Et de l'autre, ce que préconise l'homéopathie, l'idée qu'un médicament ne soigne pas d'abord une maladie, mais une personne. C'est ce que son fondateur avait aussi théorisé, Samuel Hahnemann, cette idée de la prescription individualisée. C'est aussi ça qui séduit, parce qu'à travers cela, André Grimaldi, il y a le retour d'une relation médecin-patient que beaucoup estiment juge maltraité ces derniers temps.
Oui, mais c'est ce que vient dire Alain Fischer. Vous ne trompez pas, l'homéopathie dit « je ne soigne pas des maladies, je soigne des symptômes ». Donc ça se crée ce réflexe, j'ai un malaise, j'ai une angoisse, hop, il y a un médicament. Donc il y a un côté pervers. Souvent d'ailleurs, les patients prennent à la fois des médicaments d'homéopathie et des médicaments classiques. Hein, c'est une coprescription. Et ça remplace pas une relation, c'est-à-dire que c'est pas un doudou, un médicament, c'est pas, vous transférez pas une vraie relation. C'est une vraie relation, c'est pouvoir se parler, pouvoir savoir qui est la personne, quels sont ses problèmes, comment elle vit, et souvent, ça permettrait d'éviter une prescription inutile. Hein. Alors, le médicament homéopathique remplace cette discussion en disant voilà, je vous ai interrogé sur toute votre vie, sur les couleurs que vous aimez, les odeurs que vous aimez, ce que vous tolérez pas, et donc j'ai trouvé la molécule qui vous convient. Donc il y a une espèce alors c'est sert d'argument pour dire donc on ne peut pas l'évaluer dans les méthodologies standards où on prend un groupe de patients qui prend un placebo puis un groupe de patients qui prend le médicament dit efficace qu'on veut tester. C'est pas vrai. On peut très bien, chez la même personne, de façon aléatoire, donner le produit homéopathique ou le placebo. Hein, et on verra que, et on voit qu'à ce moment-là, ben, qu'il n'y a pas de différence. Hein. Donc on ne peut pas être dans la supercherie. Moi, je ne suis pas contre qu'on prescrive un placebo. Mais est-ce qu'on doit raconter des balivernes aux patients quand on prescrit un placebo?
Est-ce que ce n'est que placebo pour vous?
Oui, ben, oui, ce n'est que placebo. Oui. Toutes les études montrent que ce n'est que placebo. Mais placebo, ce n'est pas rien. On est en ce moment dans une société qui dit que la méditation en pleine conscience, c'est une grande puissance. On en donne plein de vertus immunologiques ou autres. C'est-à-dire qu'on dit que la chimie cérébrale, ce n'est pas rien. Elle a fait dans les faits placebo comme dans les effets nocebo. Hein, le cerveau est capable de sécréter des substances qui ont des effets réels et d'ailleurs qu'on peut inhiber. Donc l'effet placebo, c'est pas une insulte, c'est pas une pure imagination. Hein. Donc les placebos peuvent être l'acupuncture, puisqu'on peut faire maintenant avec des aiguilles rétractées des fausses acupunctures. Ben, c'est un placebo, mais c'est un placebo très sophistiqué. Le plus grand des placebos, au fond, c'est la chirurgie. Il y a une époque où on croyait soigner l'insuffisance coronaire en faisant des implantations de l'artère mammaire. On opérait. Et les gens se réveillaient de l'opération en disant « Ah, docteur, je vais beaucoup mieux. Ah, depuis que vous m'avez opéré, c'est fantastique. » Donc, voilà, nous avons une capacité cérébrale à sécréter un symbole. Alors, c'est variable d'une personne sur l'autre. Tout le monde n'y est pas sensible. Ça peut être inhibé. Donc, on travaille sur l'effet placebo. Là, il y a une explication rationnelle. Parce que faut se mettre à l'époque de Hahnemann, c'est-à-dire il y a 2 siècles. La médecine officielle à l'époque, c'était on tuait plus que la technique de l'homéopathie tuait pas du tout. Hein, les saignées, etc. C'est bien plus dramatique. Seulement 2 siècles après, la médecine rationnelle, elle a avancé,
elle explique, mais pas la médecine homéopathique.
L'homéopathique, elle a pas bougé depuis 2 siècles.
Plus d'un siècle et demi, que l'homéopathie a fait son apparition en France. Vous l'évoquiez, André Grimaldi, et presque un siècle que la controverse scientifique a elle aussi débuté. En 2004, Philippe d'Oust-Blazy réclamait déjà lui aussi un avis éclairé des scientifiques.
Si les études épidémiologiques, c'est-à-dire des études de population de 10 000, 20 000 personnes, montrent qu'il y a un problème d'efficacité pour des médicaments homéopathiques, à ce moment-là, on pourra prendre des décisions. À partir du mois de janvier, on a le Haut Conseil de Santé Publique qui se met en place, et très vite, dans les mois qui arriveront, on pourra véritablement voir d'abord les actes médicaux, mais aussi les médicaments, qu'ils sont utiles, s'ils sont efficaces ou pas. Je crois que ce n'est pas à l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas aux ministres, ce n'est pas aux hommes politiques, et pardon, ce n'est pas non plus aux observateurs, ni à des sociétés savantes, de dire qu'est-ce qu'il faut rembourser ou pas. Il faut qu'il y ait dans ce pays des instances scientifiques qui, de manière objective, parlent.
Oui, alors là, l'état de la science, Alain Fischer, est quand même pas très clair dans ce domaine. André Grimaldi nous disait, la science a toujours dit, les scientifiques ont toujours, les études se sont accumulées. Et pourtant, on a cessé de réclamer l'avis des scientifiques.
C'est peut-être une façon de la part des politiques de botter en touche.
Pourquoi?
Parce qu'ils ont peur d'une certaine opinion publique qui viendrait se manifester contre une décision de déremboursement.
Vous n'avez pas parlé pour l'instant de la pression des lobbies et éventuellement celui de l'industrie fabrique aussi cette médecine, ces granules homéopathiques.
On défend son business, on peut le comprendre.
Tout le monde défend son business.
Bien sûr,
on est d'accord.
Oui, au niveau de l'industrie. Maintenant, je pense que l'on peut aussi avoir une opinion, pas une opinion, le mot n'est pas juste, une analyse scientifique d'une situation donnée qui soit indépendante de tout lobby. Je pense que heureusement, on est encore dans une société où, même si c'est parfois difficile, il est possible d'obtenir cette expression. Et de fait, pour ce qui concerne l'homéopathie, c'est le sujet aujourd'hui. Le nombre d'études, le nombre de conclusions qui viennent de tous les pays du monde, les Australiens ont fait une énorme étude il y a quelques années sur ce sujet. Elles sont toutes concordantes. Il n'y a aucune discordance. Les scientifiques, indépendamment encore une fois de toutes les pressions de quelles qu'elles soient, montrent qu'il n'y a pas d'efficacité particulière de l'homéopathie en dehors d'un effet placebo. Je voudrais ajouter deux petits points. Le premier, ceux qui défendent l'idée de la persistance d'un certain degré de remboursement de l'homéopathie, incidemment 30%, c'est trop ou trop peu. Si on pense que l'homéopathie est efficace, il faut le rembourser 65%. C'est 30% déjà est un petit signe, mais ça n'a pas de sens. Mais certains disent ça coûte pas cher et puis c'est pas toxique. Moi, je voudrais dire deux choses. En ce qui concerne ça coûte pas cher, je crois que c'est à peu près quand même 130 millions d'euros pour la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est évidemment par rapport à l'ensemble du budget du médicament, c'est de l'ordre de 30-35 milliards, c'est relativement peu, mais 130 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Par exemple, avec cet argent, on pourrait rembourser intégralement la pratique de tous les vaccins. Cette fois-ci, on a là une pratique médicale absolument avérée. On pourrait engager un nombre non négligeable de personnels, infirmiers ou médicaux pour aider à la prise en charge des patients dans les déserts médicaux, etc., etc. Donc on peut pas dire que cette somme d'argent soit négligeable. Pas toxique. C'est vrai que ces produits n'est pas toxique. Bon, ce qui permet de dire que on peut se permettre de laisser en vente libre ces produits, même si c'est au coût assuré par la personne qui souhaite recevoir ce type de produit, de les ingérer. Mais il faut quand même savoir que de temps en temps, malheureusement, c'est pas la pratique la plus courante, mais ça arrive que ce type de pratique remplace une médecine efficace. Je vous donne un exemple, et je pense que cela parlera à beaucoup de monde. Si à l'automne, vous allez dans une pharmacie, pour telle ou telle raison, vous allez trouver probablement, enfin moi je l'ai vu à plusieurs reprises, bien en évidence dans la pharmacie, un panneau qui vous explique « Protégez-vous contre la grippe », c'est le moment de, éventuellement, la vaccination antigrippale, « Protégez-vous contre la grippe, prenez le produit, ta-ta-ta-ta-ta-ta, avec un nom latin très très long, ça fait pseudo-scientifique, superbe, mais qui un produit qui n'est pas efficace. » Donc la tentation est là, en tous les cas une forme de communication et de publicité est là, qui vous dit « Protégez-vous naturellement avec un produit dont on sait qu'il n'apporte aucune protection ». Et c'est pas écrit, mais de façon infraliminaire, on peut penser « Faisons ça plutôt que de se vacciner ». C'est un exemple, et les exemples plus sérieux possibles. Donc, il y a quand même un danger. Donc, il ne faut pas apporter une forme de légitimisation sociale, telle qu'elle a existé, ou sociétale peut-être, telle qu'elle existe jusqu'aujourd'hui, en accordant un certain degré de remboursement, même s'il est modeste. C'est une façon de dire, ben oui, quand même, ce produit, il apporte quelque chose. Non, travaillons plutôt sur la relation médecin-malade dont tous les deux avons parlé tout à l'heure.
Et justement, la médecine homéopathique répond en partie à la défiance ressentie.
C'est une conséquence.
Par certains, quand même, à l'égard de la médecine rationaliste et traditionnelle, conventionnelle.
Ça met le doigt sur un défaut de cette médecine, qui est de ne pas accorder, enfin il ne faut pas généraliser, mais parfois, ne pas accorder l'écoute et le temps nécessaire, le dialogue adéquat entre le médecin et le malade. Donc c'est une conséquence et pas une cause. Il faut agir sur la cause et faire en sorte que cette relation médecin-malade se passe dans de meilleures conditions et avec le temps de l'explication.
André Grimaldi.
Oui, cette relation est décisive dans la maladie chronique et comme vous savez, depuis déjà longtemps mais maintenant de manière très répandue, c'est développer l'éducation thérapeutique du patient, avec des séances collectives, avec un temps de relation, avec des compétences acquises par les patients. Donc, il y a une réponse quand même. Alors, c'est vrai que la logique du paiement à l'acte et des consultations qui durent 15 minutes permet pas une relation suffisante et de qualité. Mais au-delà même de l'homéopathie, le problème se pose des remboursements à 30%, comme disait un Fischer. C'est trop ou pas assez. Il n'y a pas que l'homéopathie qui est remboursée à 30%. Et pourquoi les homéopathes veulent ce remboursement? Parce que ça donne cette idée de label scientifique. Bon, ça usurpe un label scientifique. Alors, autre chose, c'est de dire...
Autre argument qui est quand même mis en avant par les signataires d'une pétition qui a rassemblé plus d'un million de signatures, de médecins homéopathes et d'usagers qui appellent eux au statu quo, l'argument sur la question des remboursements, c'est que ça favorise aussi un usage encadré des médicaments homéopathiques par les professionnels de santé.
Bah oui, mais enfin, on peut pas dire ça. Vous pouvez dire ça alors pour n'importe quelle patamédecine, ils en développent beaucoup, hein. La réflexologie, où on vous dit que dans l'implant du pied, on trouve votre pancréas, votre thyroïde, vos reins, l'auriculothérapie, où on vous dit que votre oreille ressemble à un fœtus, et bon, etc. Et on va dire, pour que ce soit encadré par des gens qui connaissent la médecine, on va développer ce qui est quand même à la base aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un serment de ne pas mentir aux malades. Alors, on peut ne pas jeter la vérité au nez des gens, mais on ne doit pas mentir. Hein, on prête ce serment. Raconter que le corps humain, c'est des méridiens, qu'il y a une mémoire de l'eau, c'est quand même un mensonge. Hein. Donc, faut dire, appeler les choses par leur nom. Hein. Encore une fois, il y a deux siècles, on était dans d'autres situations. Alors, par ailleurs, il y a ce problème de l'emploi, qui est au fond le problème de pression sur les politiques. Hein. C'est de l'emploi en moins, c'est un problème. Alors, ça, faut le séparer. C'est-à-dire que c'est pas l'assurance maladie obligatoire d'être une subvention pour l'emploi. Moi, je suis pas contre qu'il y ait une partie de ces 130 millions dont on parle servent à reclasser des gens, servent à une formation, servent. Mais c'est pas l'assurance. Alors, ou alors la ministre qui nous a dit il faut mettre une grande campagne sur la pertinence des prescriptions parce qu'il n'y a pas que l'homéopathie. Il y a plein d'examens inutiles, il y a plein de choses qui sont faites qui ne devraient pas être faites. On peut pas dire on veut une pertinence des prescriptions mais on rembourse l'homéopathie. Il faut une pertinence des remboursements si on veut ensuite dire aux médecins mais pourquoi y a-t-il de telles différences entre vous, hein? Nous vous demandons de rationaliser vos prescriptions. Bon, et ça, c'est un grand sujet en France. En gros, on dit que 20% des prescriptions sont inutiles. On quitte le sujet de l'homéopathie. Mais à partir de l'homéopathie, on a développé, dire, on n'aura pas une homogénéité, tout le monde ne sera pas d'accord, ça c'est tout à fait normal. Mais néanmoins, il y a une trop grande disparité, il y a une absence de pertinence de prescription, on doit rationaliser nos pratiques médicales.
Alain Fischer, André Grimaldi, ne faut-il pas plutôt aujourd'hui pousser la connaissance, approfondir sur ces médecines alternatives, plutôt que de demander, comme vous le faites, Alain Fischer, dans cette pétition que vous avez co-signée, de demander la suppression de l'enseignement de l'homéopathie?
Je pense qu'il n'y a pas de médecine alternative, pour dire les choses très clairement. Il n'y a qu'une seule médecine fondée sur la science et les preuves. S'il s'avérait demain que telle ou telle pratique, quelle qu'elle soit, de quelque nature qu'elle soit, apporte un bénéfice aux malades et qu'on le démontre dans des études effectuées par une méthodologie éprouvée, qui est très très classique aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. Cette pratique doit être entre dans le cadre de la médecine et aussi doit être enseignée. Tout autre chose, toute activité qui se veut, qui se revendique médicale, mais auquel je n'accorde pas l'adjectif médical, ne doit être ni pratiquée, en tous les cas ne doit pas être remboursée par la sécurité sociale, ne doit pas être prise en compte de façon solidaire par notre société et n'a pas de raison d'être enseignée. Ce qu'il faut enseigner aux étudiants en médecine, sur un plan théorique et pratique, c'est comment on se comporte, j'y reviens, ça me paraît central, c'est la façon dont on interagit avec un malade, comment on l'écoute et comment on répond à ses questions.
On va y revenir. Vous restez avec nous, Alain Fischer, médecin spécialiste d'immunologie, chercheur à l'INSERM et professeur au Collège de France. Et vous, André Grimaldi, professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière. On se retrouve dans une vingtaine de minutes.
France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Et on retrouve nos deux invités, les invités des matins de France Culture, Alain Fischer et André Grimaldi. J'ai pas cité tout à l'heure, André Grimaldi, le titre de votre dernier ouvrage, Les maladies chroniques vers la troisième médecine, paru chez Odile Jacob. On avait ouvert ensemble depuis 7h40 cette discussion autour de la très controversée déréglementation des médicaments homéopathiques annoncée il y a peu dans un avis rendu par la Haute Autorité de la santé. La décision politique, quant à elle, n'a pas encore été prise. L'exécutif n'a pas encore tranché sur cette question. Néanmoins, ce débat ouvre beaucoup de questions, à vos yeux aussi, sur l'état de la santé aujourd'hui, et notamment l'état des relations entre les patients et les médecins qui les traitent. On a vu depuis le printemps un mouvement de grève nationale entamé aux urgences, important. À la mi-juin, une série de mesures a été annoncé, dont la revalorisation de 100 euros de l'indemnité forfaitaire des risques des personnels non médicaux. Elle a été, le décret a d'ailleurs été publié ce week-end au journal officiel. On sent donc une médecine très tendue, en crise sur beaucoup de sujets. André Grimaldi, quelle est l'urgence pour vous aujourd'hui?
Écoutez, la crise des urgences témoigne d'une double crise. Entre environ 40% des patients qui viennent aux urgences pourraient être soignés dans la médecine de ville. Donc la médecine de ville n'est pas adaptée à ce qu'a été l'évolution des demandes de santé, le vieillissement de la population, les maladies chroniques, et elle ne répond pas. Donc les gens, ils vont aux urgences. Et puis le deuxième problème, et qui est le plus grave, et là où il faut agir, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé aux urgences, il y a en gros 30% des patients qui sont hospitalisés. Or, on ne trouve pas de lit pour eux. Donc on les met sur des brancards. À la Pitié-Salpêtrière sont réapparus des brancards. Les malades peuvent rester plus de 24 heures. Ils peuvent y compris avoir un traitement, par exemple pour leur coronaire, et revenir sur leur brancard. Bon, donc, et ça parce qu'il n'y a pas de lit. On ne trouve pas de lit. Alors, depuis 15 ans, on a diminué de 15% les lits. On a un dogme, il faut diminuer les lits. Quand on dit qu'on va construire un nouvel hôpital nord de Paris, Bichat-Beaujon, on dit aussitôt on va diminuer de 30% les lits. Et ça, c'est devenu un dogme. Comme il y a eu une époque où on disait il y a trop de médecins en France, il y avait un dogme. Alors, l'argument est que la Suède a deux fois moins de lits que nous. Mais c'est un système de santé, parce que les Allemands ont 50% en plus. Les Japonais ont 100% en plus. Donc c'est l'ensemble d'un système. Donc là, il y a urgence, il faut qu'il y ait des lits en aval des urgences. Il faut que les patients qui ont fini leurs soins à l'hôpital puissent aller dans des centres de soins de suite. Hein. Il y a plusieurs centaines de patients qui ont fini les soins aigus à l'hôpital, mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui nécessitent encore des soins, mais des soins moins aigus. On attend plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, pour pouvoir les transférer. Donc, notre système n'est pas adapté. Il faut que les lits soient déplacés vers l'aval des urgences, c'est-à-dire que le malade qui arrive aux urgences puisse être couché rapidement, hein, dans les services de médecine interne, médecine polyvalente, avant d'être dans les filières spécialisées, et puis que les gens qui ont fini les soins aigus puissent être dans les soins de suite. Donc là, il y a des mesures urgentes à prendre. Les collègues urgentistes, le doyen de la Pitié-Salpêtrière, qui est ancien chef de service d'urgence, dit que des pans entiers vont tomber. Donc, on ne peut pas attendre qu'il y ait de nouvelles
catastrophes. Des pans entiers de quoi ?
Des pans entiers de services d'urgence, où des villes ne pourront plus assurer. Hein ? Il y a la pitié, bientôt, nous ne pourrons plus prendre que les grands polypes traumatisés, le reste, on devra le refuser. Donc, quand on en est là, alors ce sont des collègues, moi je parle en leur nom, là, en quelque sorte, hein, qui connaissent bien le sujet, qui ne sont pas seulement dans l'émotion. Hein, alors, c'est vrai qu'on paye des politiques anciennes. Néanmoins, il faut que la ministre agisse de manière beaucoup plus urgente que son plan, qui est un plan intelligent, mais qui agira dans 5 ans, dans 10 ans. Hein. Donc là, il y a un problème aigu.
Alain Fischer, comment vous voyez cette situation ? Ça nous ramène aussi à ce facteur temps qu'on a évoqué tout à l'heure, avoir le temps, prendre le temps d'être à l'écoute des patients, de les soigner.
Oui, ça évoque plusieurs notions. La première, de rappeler que même s'il y a, et André Grimaldi, c'est cela mieux que moi, plus de patients atteints de maladies chroniques, il y a des progrès de la médecine. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier en fond d'une discussion, même s'il y a beaucoup de difficultés et de légitimes inquiétudes sur la prise en charge, on vient d'en parler. Par exemple, le fait que nous avons aujourd'hui une espérance de vie en bonne santé, qui s'est accrue de 2-3 ans en 15 ans. Mais en même temps, on a aussi augmenté la partie de la vie, le risque d'avoir une maladie chronique ensuite. Ce n'est pas du tout des notions contradictoires. Donc il y a à la fois une augmentation de patients à prendre en charge atteints de maladies chroniques, mais aussi nous sommes un peu plus longtemps en bonne santé, avec, malheureusement, il faut le rappeler, des inégalités sociales notables sur ce plan, donc qui ramènent aux questions générales de politique d'un pays. Ça, c'est une première notion que je souhaitais rappeler, parce que il y a aussi des bonnes nouvelles, pas que des difficultés dans la pratique de la santé. Pour moi, les questions auxquelles je suis sensible et évidemment sur lesquelles l'intervention se situe dans la pratique à moyen et long terme, c'est autour de la formation des médecins, je dirais des soignants en général. Par exemple, nous avons, je pense, un grand déficit en France de personnels soignants non médicaux ayant des formations complémentaires à celles des études d'infirmières. Le cadre existe, mais leur reconnaissance de ce type de position en France est quasi inexistant. Et ces infirmières pourraient aider beaucoup, et encore une fois, je pense qu'André est mieux placé que moi pour en discuter, pourraient aider beaucoup sur la possibilité d'aider au quotidien la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques et dans l'éducation thérapeutique. Nous sommes en grand déficit de ce type de poste, et je pense qu'il faut accroître l'effort, mais au-delà d'accroître l'effort de formation complémentaire de personnels soignants non médicaux, au-delà des 3 années d'études actuelles après le bac, il faut créer les postes ad hoc, pour que ces personnes puissent travailler avec la reconnaissance sociale qui doit être la leur. Et cette mesure qui prendra du temps à se mettre en place si elle est mise en place, en termes d'effet, je tends le temps nécessaire, et serait très importante. Et aussi, je pense qu'il faut agir dans la formation médicale. On peut espérer que les réformes en cours, d'ailleurs, ouvrent un tout petit peu et permettent, donnent une plus grande flexibilité aux différents types de formation des médecins en fonction de leurs aspirations et des différents types d'activités. Et il faut, par exemple, il y aurait beaucoup de choses à dire, je pense beaucoup mieux former les jeunes médecins sur les questions de santé publique. On en a évoqué quelques-unes. Et je pense à un assez grand déficit en France. Malgré quelques exemples de personnalités illustres, d'action et de réflexion et de recherche dans le domaine de la santé publique. Et je pense qu'il faut remettre fortement les questions de santé publique dans le cadre des études de médecine et faire en sorte que les futurs médecins aient en tête ces questions lorsqu'ils pratiquent.
On sent que beaucoup se joue en amont aussi au niveau de la formation, André Grimaldi, oui, qu'on a tendance un peu à résumer au numerus clausus et à la question de la répartition des postes pour ceux qui sortent d'école de médecine, alors que la formation est essentielle et beaucoup se joue là.
Oui, parce que quand vous êtes jeune étudiant en médecine, vous allez vite à l'hôpital, ce qui est une chance en France, et on vous apprend à prendre l'observation, on dit, du patient. Mais cette observation, vous l'avez écrite, hein, pourquoi le malade vient, quels sont ses antécédents, ses symptômes, de quoi il se plaint, etc. Et puis après, vous terminez par des hypothèses diagnostiques, etc. Cette observation n'a jamais été que l'observation de la maladie et n'a jamais été l'observation du patient. C'est-à-dire, les étudiants ne savent pas qui est ce patient, comment il vit son hospitalisation, comment il vit en général, quels sont ses projets. Bon, c'est ce qu'on appelle la médecine narrative, qui nous vient d'un vieux passé. Avant que la médecine fût scientifique, elle commençait par être une médecine narrative. On a complètement gommé ça. Ce que Ricoeur appelait l'identité narrative, finalement. Quand vous avez une maladie chronique, à l'âge de 14 ans ou 15 ans, on vous apprend que désormais vous serez diabétique, ça sera pour la vie, c'est pas rien, ni pour vous, ni pour votre entourage. Vous ne trouvez pas une trace de ça dans les observations médicales. Comment a été vécue l'annonce d'un diagnostic? L'annonce d'une maladie grave, comment elle se fait? Aujourd'hui, on a tout et n'importe quoi. On peut vous annoncer, vous avez un cancer comme ça, vous arrivez aux urgences, et ben, on vous hospitalise, on va faire le bilan. On peut vous l'annoncer par téléphone. Tout à l'heure, Alain soulignait un des points majeurs, c'est-à-dire que dans ces maladies chroniques, les infirmières ont des compétences considérables, médicales. Elles peuvent largement remplacer des médecins. On a un ensemble de médecins, mais des médecins aussi qui font parfois des tâches qui leur reviennent pas. Dans mon service, les infirmières suivaient des malades, leur téléphonaient, échangeaient et on discutait ensemble. Bon, tout ça, c'est un travail d'équipe. Et sur ce point-là, on veut dire que la ministre a pris conscience de ça. Mais ça mettra du temps.
Ça mettra du temps.
Ça mettra beaucoup de temps. Il faut quand même rappeler une chose, seule chose.
Rapidement.
C'est qu'une infirmière en France commence sa carrière avec 1600 euros. C'est-à-dire qu'on est 26e dans les pays de l'OCDE. Il est temps de revaloriser, si on veut faire une grande réforme, les métiers d'infirmière, d'aide-soignante.
Merci beaucoup André Grimaldi. Je rappelle que vous êtes diabétologue et professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière. Merci à vous Alain Fischer d'avoir été avec nous pour ces premiers matins d'été de France Culture. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste d'immunologie, chercheur à l'INSERM et professeur au Collège de France.